Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, pour faire reculer les pelleteuses.
En direct du studio 611, une émission qui fait le débat, dans la forêt, réalisée par Clément Nougui, assistée au coupe-coupe de Mathilde Verfailly, avec Tristan Gratalon à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, la forêt est un champ de bataille. En Guyane, les Amérindiens défendent leur forêt. Ce n'est pas une ZAD, c'est une ZDUC, une zone de droit d'usage collectif. En métropole, les agents forestiers de l'ONF, l'Office National des Forêts, aussi se mobilisent pour que nos forêts ne deviennent pas des objets de spéculation financière des OSF.
On vit trop dans une société où tout va vite, où on demande à chacun d'avoir un rendement. Bah, je suis contre ça. Mon engagement aujourd'hui, c'est de dire, eh ben, regardez, je vis par moi-même.
Chaque mission va être alignée derrière un chiffre. Et du coup, au fur et à mesure, on est de moins en moins présent dans nos forêts et sur le cœur de notre métier.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, que les gilets jaunes sont encore loin d'avoir dit leur dernier mot. Malgré les sondages qui annoncent un fléchissement de popularité, malgré les chiffres des manifestants que l'on dit en baisse, il faut dire que les tirs de LBD 40 et le nombre très élevé de blessés sont assez dissuasifs, à tel point que l'ONU et le Parlement européen s'alarment tous deux sur un usage excessif de la force, la détermination sur les ronds-points reste inchangée. Comme sur celui de la ZAC d'Ony, près de Metz, la plus grande zone d'activité commerciale de France, où se côtoient toutes les enseignes de la famille Muliez, championne de l'évasion fiscale. Deux fois, les gilets jaunes ont été délogés, deux fois, ils ont reconstruit le QG. À chaque fois plus grand et plus beau. Il y a un cabanon, un auvent, des guérites, et l'on s'y relaie jour et nuit. Mais de tout cela, on vous parlera la semaine prochaine. Cette semaine, on va vous parler de ce qu'il y avait avant les ronds-points et les zones d'activité commerciale. On va vous parler de la forêt et de ceux qui luttent pour la préserver. Car les forêts aussi, comme tous les biens publics, subissent coupes budgétaires et mesures d'austérité, Antoine.
Oui, l'Office national des forêts est dans le collimateur de la rigueur budgétaire et ce n'est pas nouveau. Mais les agents forestiers qui craignent une privatisation et une surexploitation des forêts publiques se mobilisent pour que la mission d'intérêt général de l'ONF perdure.
Et si l'ONF lutte en métropole, en Guyane, Guive, ce sont les Amérindiens qui vivent dans et de la forêt qui se battent pour la préserver.
Oui, vous vous souvenez que le mois dernier, nous vous avons fait entendre les voix de Guyanais mobilisés contre des grands projets extractivistes qui menacent l'environnement. Et si la mine industrielle Montagne d'Or, en plein cœur de la forêt tropicale, continue toujours son lobbying, on célèbre ces jours-ci en Guyane une victoire par abandon sur Total et son forage offshore qui vient de jeter définitivement l'éponge après 100 millions d'euros dépensés en prospection. Et sur cette bonne nouvelle, on retourne donc cette semaine en Guyane, dans ce paradis vert, cette fois-ci avec les Amérindiens qui se battent pour la forêt dont ils vivent. Alors qu'environnement et climat peinent à devenir des priorités pour le monde développé, je vous propose une série de rencontres où toutes et tous partagent l'idée que le retard en développement de leur pays est peut-être une chance. Plutôt que répéter les erreurs climaticides qui ont échoué ailleurs, prendre d'autres voies pour un autre usage de la forêt et un autre usage du monde.
Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court en Guyane quand la forêt est un champ de bataille.
La Guyane est le pays de la forêt tropicale et encore inexplorée.
La forêt amazonienne, un territoire de légende.
La Guyane est devenue une terre d'exploitation.
Même pas trouvé d'hydrocarbures. Alors bien sûr, nous sommes très très déçus de ce résultat.
D'immenses efforts ont été accomplis en vue de défricher la forêt.
1513 hectares de forêt déboisée, dont plus d'un tiers, 575 hectares de forêt primaire.
Et de nouveaux colons réfugiés d'Europe orientale se sont mis à l'ouvrage.
Pourquoi ? Pour ouvrir la terre à la recherche de notre précieux, l'or.
Make our planet great again.
C'est ce qu'on appelle un écocide. On considère actuellement que la forêt, notre biodiversité, elle vaut plus que tout l'or du monde.
Antoine Chao.
Cette forêt luxuriante est plus que jamais en danger.
Charlotte Berry.
Des centaines d'hectares sont coupés ou brûlés chaque jour.
Qui manque-t-il ?
La Guyane, hier terre de l'oubli, aujourd'hui terre d'avenir.
Comme un bruit qui court.
Jean-Marie Prévoto, je suis Guyanais, guide animateur au parc naturel régional de la Guyane. Je fais ce qu'on appelle de l'éducation à l'environnement et au patrimoine.
Et alors là, on est à l'entrée de la salle de classe, si on veut.
Ça pourrait être une salle de classe, effectivement. Ce serait, voilà, l'image me plaît.
C'est un petit chemin de terre marron-rouge. Et des deux côtés, la végétation qui se rejoint en arche au-dessus de nos têtes.
Parce que par le sentier sur lequel nous nous trouvons, la lumière arrive directement au sol. Et ce mur végétal se bat pour avoir accès à cette énergie lumineuse.
On avance un peu.
On peut avancer, alors à droite ou à gauche.
Je te fais confiance.
On va peut-être tout prendre à droite.
Une espèce d'énorme sauterelle avec des petites boules rouges sur l'aile, comme des œufs. Qu'est-ce qu'on entend là, tout le temps, tout ce bruit incessant?
Ah, ces espèces de cliquetis là, ce sont des petites grenouilles qui se livrent à leur chant d'amour, alors surtout les mâles, hein, qui chantent. Parce que bon là, comme le temps est un peu humide, on est dans ce qu'on appelle la petite saison des pluies.
Et ça, c'est le bruit du vent dans les feuilles qu'on entend?
Voilà.
Tout d'un coup, il y a une espèce de bruit nouveau qui arrive.
Voilà, c'est ça, c'est une petite rafale. Voilà. Par contre, on risque d'être mouillé.
Ouais, là, c'est en train de se couvrir.
Ça se couvre bien, quoi.
Mais en même temps qu'on avance, la forêt se couvre aussi. Donc là, ça fait des super parapluies.
Ouais.
D'autant que je vois des feuilles de toutes les tailles, des feuilles gigantesques.
1600 espèces d'arbres en Guyane, 6000 et quelques espèces de plantes. Chaque année, on en découvre de nouvelles. Voilà quoi.
C'est vrai que là, il n'y a pas le petit sentier sur lequel on marche, il n'y a pas un centimètre carré où il n'y ait pas une forme ou une autre de végétation.
La forêt est toujours, toujours verte.
Et c'est vrai, là, pendant qu'on dit ça, je regarde autour de moi, il y a une espèce de gros papillon énorme, bleu et noir,
voilà,
qui
c'est
passe.
C'est un morpho qu'on appelle localement ici les bleus barrés.
Et je vois, à part cette pauvre feuille séchée qui prend en douille à moitié d'une liane, tout est strictement vert. Et puis c'est des nuances de vert, mais c'est quand même une même tonalité.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'une forêt en Guyane. Il y a à peu près 20 sortes de forêts différentes qui s'imbriquent entre elles. Et il faut voir ça comme une mosaïque, ou comme un puzzle. Et quand on a l'habitude de lire la forêt, de connaître sa végétation, on peut tout de suite se dire, ah ben on est plus ou moins dans tel endroit. C'est... Moi, quand je vais en métropole, les rares fois où j'y vais, quand je vois un arbre dénudé en hiver, pour moi, c'est extraordinaire. C'est pas croyable. C'est comme ça.
Et c'est de l'eau que j'entends, là. C'est un cours d'eau.
Il y a un cours tout
court. Je faufile entre les feuilles. Je baisse la tête. J'essaie de pas me prendre les pieds dans les racines qui ressortent. Et on arrive au point d'un petit ruisseau où il y a un tronc d'arbre qui permet de traverser. Joli là, il y a un tout petit rayon de lumière qui passe et qui frappe dans l'eau, qui a l'air rouge du coup.
Il y a plein de petites choses. Et puis là, par exemple, là, à tes pieds, un peu attaqué par une plante. Ah. Se prendre dans une
les épines.
Dans les épines. Bon, c'est le t-shirt qui va souffrir.
C'est les craintes là de cette
espèce. Il n'y a pas de grosses épines, mais elles sont bien acérées, quoi. Voilà. C'est pas l'enfer vert comme l'image d'Épinal veut nous laisser croire, mais c'est pas non plus le bois de Boulogne. Si je peux me permettre. Bon, là par contre, on est sur un petit chemin qui est pas des plus récents, on va dire.
Et là, on marche sur des rondins pour pas s'enfoncer dans la gadoue.
Ouais.
On a l'impression que cette forêt est increvable. Est-ce qu'elle est menacée?
Ah oui, c'est menacée par nous les hommes, par nos activités modernes, par nos pouvoirs, nos machines, notre avidité, nos connaissances. La forêt a l'air belle, humide, ombrophile, équatoriale, etc., tout ce qu'on veut, sauf que le sol de cette forêt est l'un des plus pauvres au monde. Et cultivé de façon traditionnelle, européenne, on va dire, ça n'est pas faisable parce qu'au bout d'un moment, les sols s'érodent, les sols s'appauvrissent et c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi dans notre histoire commune, c'est que les Français n'ont pas forcément intégrer le savoir local, le savoir amérindien. Et quand tu lis les archives locales, tu te rends compte que les colons installés...
Au milieu du XVIIIe siècle.
Voilà, c'était vers ces années-là. Crève la dalle, alors qu'il y a de quoi manger ici. On est dans un pays d'une richesse naturelle.
Ah, c'est exubérant.
Voilà. Donc c'est pour ça que les savoirs ici en Guyane sont multiples hein, sur la forêt, la connaissance des peuples locaux, premiers, créoles, bushinengués. Elle est aussi importante que la connaissance pure et dure, scientifique, avec des noms latins, etc. Quoi.
Hey, Jean-Marie, oui. On se remet à bouger là parce que les moustiques dans la forêt.
Si peu. Parce que les quelle heure là ? Ah, 16h15, ouais. Ça commence, tu vois déjà la pénombre commence un petit peu.
Ouais, c'est vrai qu'on ne voit plus de rayons de soleil.
Voilà, ça va, on va descendre tranquillement.
Bonsoir, je m'appelle Marie Fleury, je suis chercheur de métier et moi je suis ethnobotaniste, donc je travaille sur justement les relations des hommes et des plantes dans les populations autochtones et bushinengués en Guyane depuis plus de 30 ans.
Votre travail, une partie de votre travail, ça va être de suivre et de recueillir le savoir traditionnel des plantes qu'il y a dans la forêt.
Tout à fait, le véritable trésor de la Guyane, c'est son patrimoine culturel immatériel. Ce sont ses savoirs sur la nature. Depuis des millénaires que les Amérindiens habitaient cette forêt, ont vécu dans cette forêt, ont exploité cette forêt. C'est vrai que mon travail, moi, ça a été d'enregistrer ces savoirs, les archiver, que les générations suivantes puissent s'en souvenir pour ne pas oublier. Et que c'est à nous de s'inspirer de leur savoir-faire, de leur philosophie de vie aussi, de toutes leurs connaissances sur la forêt, plutôt que l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir absolument imposer nos modèles qui sont souvent climaticides, on le voit maintenant au niveau mondial, la destruction de notre planète, eh bien on devrait peut-être inverser les choses et puis écouter les sages qui sont encore là et qui nous disent stop, arrêtons de couper la branche sur laquelle on est assis, arrêtez de détruire cette nature qui nous nourrit depuis toujours. Tous les spécialistes le disent, on ne remplacera jamais cette forêt qui est unique et qui a mis des milliers d'années à se constituer. Les sols de la Guyane, on sait qu'ils sont pauvres, ils sont entretenus par la forêt. Elle-même, c'est un équilibre. Si on détruit la forêt, on va vers le désert. C'est pour ça qu'on considère que si la forêt de la Guyane, c'est la seule qui est sous juridiction française, donc européenne, on se doit de la préserver. C'est pas une mise sous cloche, c'est simplement une utilisation raisonnée des ressources renouvelables de la forêt qu'on demande, et non pas un pillage de ces ressources, une destruction irréversible de cette biodiversité. C'est essentiel pour l'équilibre de la planète au niveau du climat. C'est le climat de la planète entière qui s'en ressent dès qu'on fait de la déforestation. Toutes les forêts au monde sont en danger actuellement. Toutes les forêts au monde. De quoi nous parle ? On nous parle de développement économique. Mais ça n'a aucun sens s'il n'y a plus personne pour en profiter. Nous, on pense aux générations futures. Essayons de leur laisser quand même une planète habitable. On veut juste un développement raisonnable. On ne va pas tous mourir pour le profit d'une poignée d'individus qui veulent toujours plus. Donc nous aussi, on est mobilisés en Guyane pour défendre cette forêt qui est irremplaçable et qui est exceptionnelle.
On continue notre route sur les chemins forestiers et de la Guyane verte à essayer de réfléchir aux alternatives au développement qui sont proposées, puisque d'un côté on a le grand projet de la montagne d'or qui prévoit d'extraire du cœur de la forêt primaire 85 tonnes d'or en 12 ans, un grand renfort de bulldozers, de cyanure et d'explosifs. Et alors là, on est à des milliers d'années-lumière. On est dans un tout petit village qui s'appelle Bellevue. Après Irakoubo, à peu près 80 km de Kourou, la grande ville occidentale, moderne, technologique et son centre spatial. Bah ici, non. Ici, c'est plutôt la campagne tranquille. Des jolies, des petites maisons en bois, avec des toits en tôle, et partout, la verdure. Et c'est ici qu'on a rendez-vous avec Franck Nénès, un Amérindien, qui va nous montrer comment on peut vivre autrement avec de la forêt qu'en l'exploitant selon le vieux logiciel occidental.
Bonjour Franck.
Bonjour Guy. Alors donc je vais vous présenter la famille.
Avec plaisir.
Alors donc on est une famille donc installée ici depuis 2015 et nous avons décidé en fait de faire un grand saut. On voulait devenir exploitant agricole. Aujourd'hui je préfère le mot paysan, ouais, puisqu'on a choisi un mode de vie qui se rapproche beaucoup d'un système agroécologique. Pour un exploitant agricole, le sol n'est qu'un support, rien d'autre. Par contre, un paysan travaille avec le sol. C'est à partir de cette conviction-là, je dirais même de cette idéologie, que mon épouse et moi travaillons en fait.
Et vous, vous êtes de quelle origine?
Alors, je suis amérindien, donc de nation Kalinia, donc Teleuyu.
Qui est une des six nations qui a réussi à survivre.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis, donc, on essaye quand même de garder parmi tout ça, en fait, donc notre identité quand même. Mais de garder la tête sur les épaules et puis de ne pas subir, en fait, hein, puisqu'on a une histoire riche qui date de plusieurs millénaires quand même.
C'est-à-dire qu'en cultivant votre abattis, en travaillant la terre ici au milieu de la forêt, c'est de la politique aussi.
C'est un engagement. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas militant non plus. Mais à ma façon, donc, je milite quelque part pour une Guyane beaucoup plus respectueuse des Guyanais et puis surtout de l'environnement. Notre forêt, c'est ce qu'il y a de plus précieux.
Voilà. Ouais, du coup, on va aller faire un tour sur l'abattis.
Ah ben voilà. On y va. Ben nous allons visiter la bâtie. Ça, c'est en créole, bâtie. Et en amérindien, on appelle ça mania. Donc, c'est le terme qui veut dire, en fait, parcelle agricole, ou abattie, ou terrain agricole, ou exploitation, quoi. Voilà.
C'est un petit sentier qui avance en terre. On suit Franck qui se faufile entre les herbes hautes, les petites épines. Il faut faire gaffe. Mais c'est pas encore la forêt. La forêt, elle est derrière. Et derrière, au milieu de la forêt, il y a la bâtie. La petite parcelle traditionnelle, cultivée avec soin et attention. Un autre rapport à la terre que juste celui d'exploitant agricole. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, on commence à être dans les sous-bois, quelques palmiers, de grands arbres.
Alors voilà ma petite parcelle. Donc, comme tu le vois, ce qu'on a essayé de développer en premier, c'est la diversité végétale. Comme tu le vois, donc, nous avons des espèces bien sûr qui sont plantées et nous avons des espèces sauvages. Par exemple, le tilbum là, qui pousse assez naturellement. Donc,
Ça sent bon, on dirait un peu de la menthe.
Oui, voilà. Donc ça, on l'utilise comme bain, par exemple, quand on a de la fièvre.
Ça, c'est la médecine traditionnelle.
Oui.
Ça fait quelle taille, cet abattis?
Ah, c'est pas grand, hein. Ça fait 2000 mètres carrés.
Et là, on voit des souches d'arbres brûlées, des restes de charbon.
Voilà. On a essayé de brûler, mais on a essayé de garder également du charbon pour qu'on puisse bien imprégner le sol, que le charbon permet de fertiliser le sol. Il y a également des vers de terre qui mangent le charbon et qui fertilisent encore plus le sol. Voilà.
Ça fait comme une petite clairière là, au milieu des bois. Et c'est vrai que derrière, on voit des énormes arbres qui montent.
On a l'impression en fait qu'il n'y a pas de plantation.
Oui, mais moi là, je vois, j'ai l'impression que c'est des mauvaises herbes. Et... Donc je fais gaffe où je marche en fait là. Hein, faut que je fasse attention, pas piétiner.
Donc là, ce sont des ignames. Hein.
Ah si, quand même, on voit quelques lignes là. Mais c'est pas comme un potager où tout est sarclé, il n'y a pas une feuille morte, il n'y a pas une mauvaise herbe, comme on dit. En fait, est-ce que ça existe, les mauvaises herbes?
Chez moi, non, puisqu'en fait, quand ça pousse, eh ben, ça permet de garder l'humidité du sol. Vous voyez, donc regardez. Il y a énormément, donc, enfin, c'est tapissé de végétaux, à la fois sauvages et plantés.
On voit plein de variétés de plantes différentes, avec des tiges rouges, des petites feuilles vert clair, d'autres grandes. Il y a une espèce de palmier qui reste.
Alors, le premier qui est là s'appelle le quashinana. Donc, ça donne également un fruit, hein, qui se mange. Voilà. Donc on a du pois sucré, on a de la focaccia, on a un moubin là, qu'on utilise comme jus.
Ça, je fais attention, je mets les pieds parce que moi, je ne connais pas toutes ces végétations, je ne sais pas ce qui se mange, ce qui ne se mange pas. Au fur et à mesure qu'on s'avance, là on arrive aux premiers arbres, vraiment. Là on est un peu plus abrité de la pluie.
Comme tu le vois, la nature est extraordinaire.
Oui, parce que là, si je regarde devant moi, je vois à 4 mètres, 5 mètres. Mm-hmm. Et derrière, c'est un rideau de verdure, quoi.
Oui, tout à fait.
Tellement dense.
C'est dense. Et pourtant, on dit en fait que la Guyane, enfin, le sol guyanais est pauvre. Eh bien, oui, effectivement. Mais la nature a trouvé la solution. Je vais te montrer tout de suite. Alors là, comme tu le vois, c'est des débris végétaux.
Si on regarde par terre.
Alors, donc, c'est un tapis de végétaux. Alors, c'est à partir de ça, en fait, que la forêt va se régénérer, va se nourrir. Oui, tu vois.
Oui, vous êtes en train de creuser avec les mains.
Et là, c'est un tapis d'humus.
Des racines, voilà. Des feuilles.
Et c'est à partir de ça, en fait, que finalement, la forêt va se régénérer, va se nourrir, va se développer. C'est cette technique-là qu'on va essayer de mettre en place dans notre abatis. Donc, c'est pour ça qu'on l'a coupé un petit peu. On va laisser pourrir, enfin, se dégrader, quoi. Et puis on va planter des arbres fruitiers autour.
Ça, c'est un peu la tradition amérindienne, la bâtie.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on coupe une partie de la forêt primaire, on brûle, ça fait de l'engrais, on exploite quelques années, combien de temps ?
À peu près 3 ans. Et puis après, donc on fait notre abatis, puisqu'au bout de 3 ans, en fait, la fertilité du sol est partie.
Comme ça, on laisse la terre se reposer et se régénérer.
Voilà, donc en règle générale, donc une fois que la bâtie est épuisée, la personne revient... longtemps après, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans plus tard, de sorte en fait que la forêt puisse bien se régénérer, quoi. Et donc voilà, donc comme tu le vois là,
c'est magnifique.
C'est magnifique, c'est ouais, ça. C'est, ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est un bout de terre, on pourrait dire. Un gars des villes comme moi dirait ouais, c'est de la terre.
Ah ouais, ça sent bon.
Et ça sent bon.
Bien.
C'est la vie, quoi.
Et Franck, est-ce que vous utilisez des pesticides, vous, ici?
Non, moi, non.
Et c'est pas pour avoir le label bio?
Bah, je n'ai même pas le label bio.
Le label amérindien.
Non, regardez là où on est. On est bien, là. On est sous la forêt, il fait pas trop chaud, puis on travaille. C'est ça la philosophie, quoi.
Et alors, comment on fait, alors, sans pesticides, sans phytosanitaires, comme ils appellent?
Eh bien, on utilise le savoir de la forêt. Ce que la nature produit, on essaye de le reproduire.
Mais est-ce qu'il y a des nuisances? Est-ce qu'il y a des parasites qui viennent manger tout le manioc ou tout l'igname ou...
Donc petit à petit, on a vu en fait que les parasites ont commencé à diminuer, puisqu'en fait, il y a eu comme un équilibre entre les prédateurs et les ravageurs. Donc il y en a, mais on les laisse tranquilles parce qu'on sait qu'à côté, il y a des auxiliaires qui vont s'occuper d'eux. Regardez le papillon.
Ah oui. Donc, voilà. Ah oui, c'est comment il s'appelle celui-là?
C'est le morpho.
Morpho, le bleu et noir, mais qui vole.
Dans une parcelle conventionnelle, il n'y a rien qui vole. Il n'y a pas une abeille, il n'y a pas de papillon, il n'y a rien. C'est le calme total. Non, je préfère avoir ça que...
Et c'est comme ça qu'en France métropolitaine, il y a des signaux d'alarme qui sont tirés, parce que justement, on a fait de l'agriculture intensive, avec des très bons rendements de betteraves ou de maïs, avec force pesticides pour éviter les insectes qui compromettaient les récoltes. Mais du coup, maintenant, on s'aperçoit que dans les campagnes françaises, il n'y a plus d'oiseaux, parce qu'il n'y a plus d'insectes.
Bah oui, c'est ça. C'est toute une chaîne de la vie qui disparaît, quoi. Hein. Donc, moi, je ne suis pas pour ce type d'agriculture-là.
On parle souvent de la disparition des abeilles et du risque pour notre végétation, mais ce sont tous les insectes qui sont menacés. Une étude allemande montre que près de 80% d'entre eux ont disparu en 30 ans.
C'est un effondrement.
Les oiseaux des champs disparaissent peu à peu.
Parmi toutes les causes possibles, il y en a une qui ressort particulièrement, c'est celle de l'agriculture intensive, les pesticides.
Enfin, moi, je ne me définis pas, en tout cas, comme un écologiste. Ce n'est pas une revendication, c'est un mode de vie. C'est une alternative proposée à l'autre agriculture là, des multinationales comme Bayer, Monsanto qui a disparu, enfin c'est acheté par Bayer.
Ah oui, vous suivez bien quand même les mouvements boursiers qui se font.
Oui, ben, il faut. Hein. Et donc, vous allez n'importe où en Guyane, vous avez les commerces de proximité, tout vient d'ailleurs, tout est importé. Et donc on essaye de reprendre en main notre destin à partir de ce type d'agriculture là. Voilà. On vit trop dans une société où tout va vite, où on demande à chacun d'avoir un rendement. Tout le monde a une note en fonction de ses capacités, etc. Et donc, si tu n'arrives pas, en fait, tu es considéré en fait, comme un bon à rien pour cette société. Et donc, tu es mis à côté. Ben, je suis contre ça. Mon engagement aujourd'hui, c'est de dire, eh ben, regardez, je vis par moi-même. Voilà.
La pluie recommence ouais, doucement.
Peut-être qu'on va remonter, non ?
On va aller se mettre à l'abri du carbet.
Voyamebo, kulu kuluta, tadapuye, tusanobonawatu, napialu e napulia. Voyamebo, kulu kuluta, tadapuye, tusanobonawatu, napialu e napulia. Voilà.
C'était une comptine de quand
c'est
vous
une
étiez.
Petite chanson qu'on chante aux petits-enfants pour les faire dormir.
La communauté amérindienne de Bellevue vient d'obtenir une concession de 1000 hectares pour y développer des abattis et donc assurer sa subsistance. Si cette concession a été accordée par l'État en septembre dernier, c'est grâce à l'intervention de Cécile Couillouri, chef coutumière du village de Bellevue, sur la commune d'Irakoubou. Une femme respectée qui maintient son autorité au prix d'efforts constants, notamment auprès des élus.
Je suis Cécile Couillouri, chef coutumier du village de Bellevue, sur la commune d'Irakoubo.
Alors, je sais que normalement, j'aurais dû venir vous voir en première.
Mais c'est pas le cas.
Vous m'en voulez pas ?
Non, pas du tout. Cela fait 21 ans que j'ai été élu chef coutumier par une élection.
Et c'est un mandat qui est remis en jeu ou...
Ben, si je veux et si les habitants veulent. Sinon, bon, c'est à vie.
Voilà, s'ils en ont marre de vous, ils peuvent vous destituer.
Mais dans la joie, pas dans la guerre.
Ça, c'est de la vraie démocratie directe.
Mais oui, parce qu'on n'a pas besoin de tristesse ni de combat, on a besoin de paix, de joie dans la vie.
Pour bien mourir.
Hein ?
Pour bien mourir.
Pour bien mourir ?
Bien sûr.
Ça veut dire quoi, pour bien mourir ?
Ben, on meurt comme on a vécu sur la terre. Hein. Voilà, on est sur la terre pour être heureux. Une fois bien vécu, ben, on peut mourir en paix.
C'est ça, mourir heureux.
Mais bien sûr. Je suis Kalinia Telewiyu, premier habitant de la Guyane, que nous sommes là. Nous sommes un peuple autochtone, vivant de la terre. C'est notre mère nourricière. L'Amérindien, il a toujours respecté la nature. On n'a pas cette notion-là d'avoir un titre de propriété. On n'a pas cette notion de diviser en parcelles les villages. C'est vraiment une vie communautaire et c'est petit à petit que j'ai compris qu'il faut mener un combat. Et c'est comme ça qu'on a pu gagner, que ça fait quand même 25 ans qu'on demande une terre.
Et là, alors, qu'est-ce que vous avez gagné ?
Une SDUC.
Alors, c'est quoi une SDUC ?
Une SDUC, c'est une zone de droit d'usage collectif pour la chasse, pour la pêche.
C'est-à-dire que c'est à l'inverse justement d'un titre de propriété, c'est vous, la communauté, pouvez utiliser ces terres pourvu que ça soit tous ensemble.
Mais c'est vraiment, c'est ça notre vie. C'est avoir la forêt, on en a besoin pour la nouvelle génération parce que nos enfants, vu qu'ils n'ont pas de travail, ne peuvent pas vivre en ville. Donc, il vaut mieux qu'ils vivent dans leur village, mais qu'ils aient un espace à eux et qu'ils soient heureux également.
Pour avoir cette autosuffisance, pour pouvoir faire la bâtie, comme on a vu avec Franck Nénès, cultiver son lopin de terre pendant 3 ans, et puis après laisser la nature le reprendre pour que la terre ne s'épuise pas.
Voilà.
C'est donc, ça fait partie de votre combat, c'est une victoire, à la fois pour que les gens d'aujourd'hui vivent mieux, et puis aussi pour préserver votre identité, votre culture.
Bien sûr, parce que à travers notre combat, il y a toujours le mépris des autres, nous concernant. Et ça, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Au contraire, ça nous encourage aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, ça dérange qu'on dise que nous sommes un peuple autochtone, c'est parce que nous existons. Nous existons. Et personne ne nous effacera en Guyane, parce que la Guyane, c'est notre pays. On veut bien la partager, mais il faut que le mépris s'arrête. Et on va se battre. Pas avec la guerre, pas avec les armes, mais intellectuellement, on se bat. Et on va continuer à se battre, parce que nous existons. On est là. Puisqu'on n'est pas prêt pour baisser la tête. Là, on est réveillé, là.
Et là, vous parlez comme une chef, je trouve.
Peut-être.
OK. Come on! Come on, bruit qui cou.
Cécile le disait, se battre contre le mépris est pour un autre usage communautaire de la forêt et du monde. Et c'est aussi le message que porte une nouvelle génération d'Amérindiens réunis dans les jeunesses autochtones de Guyane et dont fait partie Christophe Pierre, que l'on retrouve à Saint-Laurent-du-Maroni.
Et le petit chien qui joue là-bas. On profite de ce qui ne pleuve pas encore pour se mettre à l'air libre. Et c'est là où je vous retrouve, Christophe, au village Pierre, c'est ça ?
Je m'appelle Christophe Yanoana Pierre. Je suis un jeune Kalinia. J'habite dans le village à côté à Terre Rouge. Je suis vice-président du Grand Conseil Coutumier chargé de la partie amérindienne. Parce que le Grand Conseil Coutumier, il y a les peuples Bushnengue et les Amérindiens. Et puis, je m'investis dans la lutte pour la reconnaissance des droits de nos peuples, on va dire.
Et vous faites partie de cette jeune génération, jeunesse autochtone de Guyane, qui prend la parole alors que, semble-t-il, les élites économiques guyanaises persistent. Nous voulons de la croissance, nous voulons du développement, nous voulons la mine. Et là, vous, vous n'êtes pas d'accord.
Non, on n'est pas d'accord avec ce genre d'absurdité. S'orienter vers ça, et sans des choix politiques, c'est quand même prendre le risque au nom d'un pseudo-développement qui met en danger toute la biodiversité, qui favorise que les plus riches et ceux qui ont déjà les moyens.
Ah, il y a une dame qui vient de libérer le petit chiot, là, qui est tout content et qui gambade. Ici, c'est un village amérindien, Kalinia ?
Ouais, voilà, c'est le village Pierre. Le Saint-Laurent, avant, c'était tout petit, quoi. Ici, on était loin. Et que maintenant, ben, on est à la limite de la ville, quoi.
C'est presque à la banlieue ?
Ouais, c'est presque ça, quoi. On est en banlieue, ici.
Sauf que c'est une banlieue-village avec des maisons en bois, en briques, avec des toiles en tôle. Là, c'est Joël, la dame là, qui est en train de discuter avec une autre et qui est sous son hamac, tranquillement.
Ouais, c'est un autre temps, disons. Les gens ne sont pas forcément pressés, quoi. Donc ouais, c'est agréable la vie dans les villages, même s'il y a une certaine forme de précarité qui s'installe de plus en plus, mais c'est encore agréable, quoi. On est un peu libre, on est natif de cette terre. Nos ancêtres ont foulé cette terre, ils ont vécu, ils sont morts sur cette terre, ils sont enterrés ici, avec leur famille, leurs descendants, jusqu'à nous, quoi. Pour que toutes ces histoires-là soient vivantes, soient racontées, soient transmises, pour que toujours il y ait des résistants amérindiens, quoi.
Et là, il y a une résistance amérindienne que vous avez menée avec d'autres, avec jeunesse autochtone de Guyane, à l'échelle locale, mais pas que.
Mais Guyane, on s'est beaucoup mobilisé, on a été très médiatisé autour de la montagne d'or, mais il n'y a pas que la montagne d'or, je veux dire. C'est terrible, quoi, de voir ce qu'on fait à la terre, quoi. Parce que derrière, c'est pas juste un écosystème qui est anéanti, c'est vraiment toute la représentation du monde, quoi.
Est-ce que vous releviez, Christophe Pierre, vous autres Amérindiens, c'est que une des sociétés de cette mine, qui veut s'installer dans la montagne d'or, aller sur les terres ancestrales, sur la forêt primaire, il y en a une qui s'appelle Norgold, qui est russe. Et l'autre, elle s'appelle comment ?
Ah, Columbus Gold. Ouais, c'est
l'or de Christophe Colomb.
Ouais, voilà. C'est rien que ça, c'est une insulte. En fait.
Christophe Colomb revient après 1492.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a des centaines d'années, il traversait l'océan pour trouver de l'or. Aujourd'hui, ils reviennent pour la même chose encore. Et je pense que ça va pas se terminer. C'est leur fonctionnement, quoi. On peut plus rien faire, je pense, pour ces gens-là. Donc nous, non, quoi. Nos ancêtres ont résisté, nous, on résistera. Et un jour, si nos enfants se retrouvent dans la même situation, on va les préparer pour qu'ils soient prêts à résister également. Parce que c'est un peu ça, hein, l'histoire de l'humanité, on va dire. C'est des histoires de lutte pour la dignité, pour le respect, au fait. Nana, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. notre terre, nous l'aimons et nous voulons la récupérer et la préserver.
Nous, on dit toujours non à la Montagne d'Or. Hein. Nous sommes là, Cyril Bronze. Et moi, je suis Guillaume Kayamari.
Cyril.
On va un peu par là.
Ah bah voilà, on est à l'abri de la pluie.
C'est ma première chanson. Pour soutenir les Amérindiens, comme on n'est pas déjà nombreux. Ben.
Une chanson protest song, une chanson contestataire.
Contre la Montagne d'Or.
Quand tu veux. Si le gouvernement français s'est donné jusqu'à l'été pour donner un avis définitif sur la Montagne d'Or, en attendant, Cécile Couillouri, Franck Nénès, Christophe Pierre et beaucoup d'autres Amérindiens de Guyane continueront très certainement à faire exister une autre manière d'être au monde et une autre manière d'être dans la forêt. Merci à toutes et à tous.
Oui, parce que la forêt est un champ de bataille, comme à Sivens, à Roibon, à Notre-Dame-des-Landes, et même dans nos forêts publiques, où les agents de l'ONF ne veulent pas que la forêt soit considérée comme un objet de spéculation financière. Et une des activités principales des gardes forestiers sur le terrain, c'est le martelage, qui garantit la bonne gestion de la ressource, du bien commun forestier, et cette mission est insidieusement externalisée, petit à petit, aux grandes dames des agents forestiers de l'ONF, mobilisés qui ont publié le manifeste pour la forêt française, notre bien commun. Alors martelage et syndicalisme forestier, on part en forêt communale de Vauban avec les agents forestiers de Haute-Marne et avec au téléphone Arnaud Resseur, salarié de l'ONF et membre de la CGT Forêt dans la Drôme.
On donne un coup de flashy en fait, c'est une petite hache donc qui enlève un bout d'écorce. Et ensuite, de l'autre côté donc de l'outil, on a un tampon avec les initiales AF, administration des forêts en fait.
Et vous marquez.
Voilà.
Tempête 40C.
Oui, allô.
Arnaud Resseur, vous êtes salarié de l'ONF et membre donc de la CGT Forêt. Et vous avez marché pour la forêt hein, dernièrement. Il y a eu une intersyndicale de salariés de l'ONF qui s'est mobilisée pour sauver la forêt, sauver le métier. Pourquoi vous êtes mobilisé ?
Oui, effectivement, il y a une grosse mobilisation pour essayer de sensibiliser le grand public à ce qui se passe à l'ONF. Parce que voilà, malgré un contrat de plan État ONF qui nous prévoyait le maintien des effectifs entre 2017 et 2020, en fait, à peine plus de 8 mois après la signature de ce contrat avec l'État, notre directeur général nous a annoncé 1500 suppressions de postes, grosso modo 300 par an d'ici 2020. Donc c'était vraiment la douche froide. Et du coup là, on commence vraiment à se dire problématique au niveau de la gestion des forêts publiques.
Un gros champêtre, donc celui-là, il va être laissé. Hein. Ça, c'est un érable champêtre de très bonne taille. Donc, c'est un
arbre. Donc, ça, il a été marqué
en
bleu.
Qualité. Alors, celui-là, c'est un rond bleu. Donc, ça veut dire que point bleu, il va rester tout le temps du peuplement. Quoi. Il va rester. Celui-là, on le conserve. On essaye aussi d'améliorer les techniques de marquage aussi pour gagner du temps, parce que comme on est de moins en moins avec de plus en plus de surface et de plus en plus de volume, hein, parce que maintenant on nous demande d'extraire plus de volume.
Moi je suis à l'ONF depuis 2000, quoi, depuis la tempête de 99. Donc à l'époque on était encore 12 500 et aujourd'hui on n'est plus que 9 000, donc ça n'arrête pas.
Parce que déjà, il y a plus de 10 ans, avec la RGPP, vous étiez dans le collimateur hein, de la réforme du service public.
Oui, en fait, on était déjà en collimateur, sous des prétextes que l'équilibre financier de l'ONF n'est pas atteint, alors qu'en fait, il est structurellement déficitaire, et vu que l'État se désengage, en fait, c'est une course effrénée, et on ne sera jamais rentable, puisqu'on a un service public. Et en fait, depuis 10 ans, il ne s'est toujours rien passé. Donc en fait, on regarde le bateau couler et on supprime des postes pour faire des économies qui, de toute façon, ne marcheront pas, quoi.
40 octos, régimètre N. Alors ça, c'est du moins de 30, alors clac, c'est le petit compteur.
C'est le petit compteur, voilà. Après 30, on annonce au pointeur.
Ah, il y en a un beau qui arrive, là.
Ah oui, là.
Belle pièce, hein.
Une ressource.
Ça, c'est de la ressource.
Oui, ressource rare, qu'on appelle.
Alors, c'est un chêne.
C'est un chêne. Alors, on n'annonce pas l'essence, le chêne. 75C. Il sait que c'est un chêne.
Donc, en fait, vous, vous gérez la ressource, quoi. C'est ça, vous...
Ben oui, en
vous
plus,
gérez la ressource, fait, et qui est la ressource de l'État, qui est la ressource du pays, qui est la richesse du pays, quoi.
Des communes, des bois communaux, etc. On les répertorie et on sait ce qu'on a. En même temps que le martelage, on fait un inventaire. Voilà.
Et qu'est-ce que vous craignez, en fait? C'est une privatisation de l'Office national des forêts?
Ah ben, clairement. Et puis, on peut, je veux dire, avec le peu d'effectifs qu'on est, là, on commence à parler de plus marteler des coupes qui ont avec des bois de faible valeur. C'est-à-dire que le marchand de bois, en fait, c'est lui qui choisirait les tiges à abattre et donc sera une relation de confiance, puisque ce sont des gens à qui il faut faire confiance. Et ben, on aurait juste à cuber les bois à la fin, sans se préoccuper de s'ils ont martelé les bons arbres, par exemple. Voilà. Ensuite, et à partir de un autre exemple, là, notre DG a annoncé la fin des recrutements de fonctionnaires. Ça veut dire que mes prochains collègues qui seront recrutés en tant que contractuels, ils auront peut-être des primes qui seront indexées sur le volume de bois qui coupe. Donc, ça pose des réelles questions de conflit d'intérêts, quoi.
Terminal 35A.
Alors, le martelage, c'est justement la gestion de ce bien commun, quoi. C'est l'agent forestier qui connaît sa forêt, qui connaît ses arbres et qui répertorie cette richesse.
Oui, bah en fait, c'est un peu le cœur du métier, c'est-à-dire que c'est l'acte final. Alors, la gestion forestière, c'est pas que ça, hein. C'est la biodiversité, c'est l'accueil du public, mais c'est aussi le couper du bois et en vendre pour en mettre sur le marché. Et c'est une opération de gestion très importante parce que ça va orienter la manière dont on va faire un martelage va impacter sur le paysage, sur l'accueil du public. Donc ça va être différent en fonction des milieux, en fonction des, si on est en montagne, en plaine, dans une zone très fréquentée, peu fréquentée. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui peut influer sur le dosage des essences, sur la richesse du milieu. Enfin voilà, c'est vraiment important. Et on va commencer à donner cette mission, à déléguer cette mission aux marchands de bois. Donc ça fait vraiment peur, quoi. Et du coup, c'est notre cœur de métier qui est en train de partir. Et on est sur la pente vraiment descendante, vraiment une pente glissante, quoi.
Ça, c'est un alisier. C'est pareil, c'est un brin d'avenir, ça. Alisier terminal, une essence qui vaut très très cher. On en a vendu jusqu'à, je parle en France, jusqu'à 60 000 francs le mètre cube, les billes de pierre. Une certaine année, parce que les essences ont des modes, hein. Il y a des années, c'est l'alisier qui marche très bien, des années le chêne de tranche, une autre année, là le frêne remonte bien. Alors c'est pour ça, quand on gère la ressource comme ça, une essence qui marche bien, on a des arbres qui sont arrivés à maturité, on peut aller certaines parcelles, on connaît la ressource, on va chercher les arbres qui sont mûrs et puis on les vend au bon moment, quoi.
Donc la double marque bleue, pas touchée, quoi.
Oui, ça, à préserver, c'est pour les bûcherons.
À préserver.
Ah, ouais. Les bûcherons, quand ils abattent les autres, ils font attention au point bleu.
Parce que le sol, il fait 20 cm.
Il fait 20, on voit le pied, il est lisse, il est propre. C'est de la catégorie AA, classe A, la bille de pied. Ça, c'est un arbre à préserver. On travaille à la qualité par pied d'arbre.
Arnaud Resserre, pourtant, le droit forestier français consacrait la forêt comme un bien commun et c'est en train de se perdre, ça.
Alors, la forêt publique, hein, qui est réputée inaliénable, et du coup, on a eu deux, trois expériences aussi, notamment du côté de la région parisienne avec Eric Woerth, où il voulait vendre certains morceaux de forêt domaniale alors qu'elle est réputée inaliénable. Et c'est vrai qu'on sent que c'est attaqué de toutes parts. Un autre exemple aussi concret, on a des documents forestiers qui sont quand même le garant de la gestion durable des forêts, qui courent sur une vingtaine d'années. On commence à avoir des aménagements forestiers qui sont rédigés par des aménagistes locaux avec le forestier local qui connaît sa forêt. Ça monte à Paris pour validation et ça redescend avec un volume de bois à couper supérieur à ce que les gestionnaires de base avaient préconisé, sans aucune connaissance du terrain. Donc c'est vraiment, il faut atteindre des buts de volume de bois, de recettes à rentrer, indépendamment de ce que ça entraîne derrière. Donc c'est hyper grave, quoi. Un petit exemple, là, il y a la CAP, la commission des attributions des postes de printemps qui vient de sortir. Et sur toute la région Rhône-Alpes où je travaille, il n'y a aucun poste d'agent technicien forestier de terrain qui est proposé en appel à candidature. Il n'y a que des postes de manager. Parce que forcément, les postes de manager, ils sont indispensables pour atteindre les objectifs. Par contre, les forestiers de terrain qui martèlent des arbres, qui surveillent les forêts, qui sont assermentés, et ben là, à l'automne, il n'y aura aucun recrutement pour les postes vacants, alors qu'on a saigné à cause de la pyramide des âges, et on a beaucoup, beaucoup de forestiers qui partent à la retraite. Bon, en fait, on est en permanence avec des postes vacants. Donc, c'est des situations qui sont intenables pour les personnes des terrains, quoi. Et puis pour aussi les usagers qui en pâtissent et qui en subissent les conséquences.
75A!
Donc 75, c'est le diamètre, c'est du chêne parce qu'on n'en a pas dit, c'est
voilà,
ça
voilà.
Et A, c'est superbe qualité, quoi.
A, c'est le supérieur, ouais.
Supérieur.
Donc plus c'est gros, mieux c'est.
Bio, 35, vif!
Bio, c'est quoi?
30 octo.
30 octo. On répertorie aussi, parallèlement à ça, tous les arbres qui ont une valeur dite écologique. Donc ce sont les arbres morts, ce sont les arbres qui sont au sol, ce sont les arbres qui ont un nid ou un trou de pique ou des champignons particuliers.
Bio, 45 sol.
Un arbre, il a une vie jusqu'à ce qu'on le coupe, mais il a aussi une vie quand il meurt et qu'il dépérit en forêt. Il y a une seconde vie grâce en fait à toute la faune et à la flore qu'il peut héberger sur cette nouvelle niche écologique. Donc on les répertorie pour savoir au moins qu'est-ce que l'on a dans nos bois, en sachant que selon les scientifiques, il faudrait qu'on ait entre 5 et 6 arbres hectares bio pour avoir un optimal de l'écosystème. Ils n'ont plus de valeur marchande, par contre pour la forêt, ils ont une valeur. Et on veut savoir où on en est par rapport à ce capital.
60C!
Alors après, il y a la question écologique aussi, il y a la captation du carbone par la forêt, ça fait partie aussi des grands enjeux du moment, quoi.
Ça fait partie des grands enjeux du moment, mais qui ne sont pas du tout pris en compte dans la problématique de l'ONF. Sur l'enjeu, par exemple, de la fixation du carbone, comme en fait, on ne peut pas mettre une valeur financière directe dessus, c'est pas du tout pris en compte. C'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante pour l'ONF, donc on tient pas compte de cette mission et de ce rôle hyper important. Après, tout est monétisé à l'ONF. C'est-à-dire que chaque mission va être alignée derrière un chiffre. Genre, marteler un hectare, ça vaut tant.
Ça peut sous-traiter, quoi, du coup, c'est ça, ouais.
Oui, oui, bien sûr, par exemple, j'ai un exemple concret d'externalisation où on a externalisé en région du côté de Rouen, la région nord Île-de-France. Ils ont externalisé la rédaction des aménagements forestiers, des dossiers qui prévoient la récolte et la gestion des forêts sur les 20 prochaines années. Alors qu'on a des techniciens et on a la connaissance et le savoir-faire en interne, et ben on commence à externaliser à des bureaux d'études privées dans certaines régions ce genre de documents. C'est vraiment grave parce que il va y avoir des conflits d'intérêts évidents entre la filière et le bien public. Par exemple, moi j'ai des missions de spécialisation sur l'arbre en ville, c'est-à-dire que sur 10% de mon temps, je dois aller vendre et faire des devis sur l'arbre en ville à des particuliers, à des municipalités, en dehors des missions régaliennes de l'ONF. Et ça, c'est à tous les niveaux. J'ai un collègue qui travaille avec débroussailler des voies SNCF, et donc des fois, ça lui prend, lui, 30% de son temps, alors qu'il a 3000 hectares de forêt à gérer. Et donc, en fait, on est de moins en moins présent sur les forêts, pour essayer de faire entrer de l'argent à l'ONF, quoi. Deux des trois grandes missions de l'ONF, c'est le bien commun, c'est la biodiversité, l'environnement, l'accueil du public, le rôle social de la forêt. Et c'est plus ce qui est économique qui est valorisé en interne. À chaque, par exemple, renouvellement de poste ou de départ, on va requalifier le poste et on va lui rajouter un pourcentage de mission sur des choses qui rapportent de l'argent en allant essayer de chercher de l'argent dans le secteur privé. Et du coup, au fur et à mesure, on est de moins en moins présent dans nos forêts et sur le cœur de notre métier.
Champêtre 45C, inscrit.
C'est-à-dire que tous les services publics sont attaqués sur le même ordre. C'est pareil sur la santé. Là, il n'y a pas longtemps, sur l'hôpital de Privas était en cessation de paiement. On n'imagine pas l'hôpital de Privas qui est en cessation de paiement. Donc là, c'est tous les services publics qui doivent se mettre tous ensemble pour descendre dans la rue et lutter ensemble parce que c'est une attaque globale sur les services publics. Et c'est pas en faisant une marche pour la forêt ne suffira pas. C'est vraiment une réaction globale sur les services publics et les missions, voilà, dont on bénéficie tous. Et voilà, même la thématique des Gilets jaunes, ministre et aussi développer plus de services publics pour que les gens qui ont le moins de moyens, comme les Gilets jaunes et comme nous tous, on puisse mieux vivre, quoi. C'est ça le but.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune.
Jean-Mi, 30 octo.
60, c'est.
Sourire crispé.
Ciel, 45A.
Situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue.
60, c'est.
Tu me dis cette fois, c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, vite mon corps qui frissonne. Puis doucement s'écroule.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sources sur le site franceinter.fr. À lire le manifeste de Troncet dans l'Allier pour la forêt française, notre bien commun. Aussi le livre Être forêt de Jean-Baptiste Vidalou. À voir le film documentaire de François-Xavier Drouet, Le temps des forêts. Abonnez-vous au podcast, faites courir le hashtag comme un bruit. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h avec Charlotte sur le rond-point d'Ony dans l'Est, près de Metz.